Frères et sœurs, c'est la répétition générale. Nous sommes à 2 semaines de Pâques et l'évangile de ce dimanche, si vous me permettez l'expression, plante le décor. Et il nous lance une question, une interpellation, comme pour vous dire, il vous reste encore 2 semaines, de quel côté serez-vous ? Ou plus précisément, quelle communauté allez-vous former la nuit de Pâques ? Ou plus largement encore, qu'est-ce qui fait votre unité comme chrétien, alors que vous vous apprêtez à célébrer les grands mystères de votre foi. Parce qu'en effet, cet évangile du 5e dimanche de Carême, il pose 3 groupes, 3 exemples, pourrait-on dire, ou contre-exemples de communauté. Il y a d'abord le peuple. Ce peuple, on a une toute rapide mention au début de l'évangile. La seule chose qu'on nous dit, c'est que Jésus s'était assis près du temple et que tout le peuple venait à lui. Mais ensuite, ce peuple, il n'en est plus question. Tous ces gens qui s'étaient rassemblés pour écouter Jésus, il n'en est plus question. Ce peuple, c'est un groupe qui passe par là. Il se regroupe visiblement près du temple, près de ces pierres qui rappellent la présence de Dieu. Il vient écouter Jésus et il ne fait rien de mal. Mais dès qu'une controverse se manifeste, dès qu'il y a un peu d'eau dans le gaz, dès qu'il faudrait peut-être prendre position, comme cette controverse entre les pharisiens et Jésus autour de la femme adultère, ce peuple, il se retire. On n'entend plus beaucoup parler de lui. Et je crois que c'est un peuple qui annonce déjà la foule des rameaux. Il passe, il s'enthousiasme, mais il ne s'engage pas trop si sa tranquillité est menacée. Il peut nous ressembler quand nous sommes pris dans nos habitudes religieuses, quand nous nous rassemblons plus finalement autour de nos institutions, autour de nos églises de pierre, plutôt qu'autour du Christ. Alors oui, ces habitudes religieuses qui nous rassemblent ne sont pas toujours mauvaises, mais parfois nous les avons tellement inscrites dans notre quotidien que ce sont ces habitudes-là qui finissent par nous faire vivre plus que la nécessité de nous risquer pour le Christ et pour l'autre injustement accusé. Si le Christ venait aujourd'hui, cette foule serait peut-être celle qui continuerait à organiser ses réunions d'organisation pastorale, à écouter peut-être ou à donner des conférences théologiques, ou encore à décorer les églises pour les grandes fêtes. Mais cette foule serait-elle prête à se risquer, à mourir pour le Christ ? Serions-nous prêts, nous, à mourir pour le Christ ? Ne soyons pas de ce premier groupe, ce groupe de croyants installés. Sinon, nous crierons un jour « Hosanna » et le lendemain « Crucifie-le ». L'autre groupe, le deuxième groupe de l'évangile de ce dimanche, c'est celui des scribes et des pharisiens. Alors on pourrait les voir, et c'est souvent comme ça qu'on les voit un petit peu rapidement, on pourrait les voir comme un groupe d'hommes qui cherchent à respecter scrupuleusement la loi. Mais plus précisément, je crois que ce n'est pas forcément la loi qui les rassemble. Ce qui les rassemble, c'est plutôt une espèce de fascination pour la transgression. Ce qui les fascine, ce sont ceux qui ne respectent pas la loi. Ce n'est pas le respect de la loi qui les unit, mais l'opposition aux pécheurs, aux catégories de pécheurs que eux-mêmes, au fond, créent de toutes pièces. De fait, ils ne rencontrent jamais des personnes, ils rencontrent des catégories. Je ne sais pas si vous avez noté dans l'Évangile la manière dont ils parlent de la femme adultère. Ils disent « ces femmes-là ». Moïse nous a demandé de les lapider. Ces femmes-là, cette catégorie-là, très rapidement réduire une situation, une personne, à une catégorie. Ce groupe des scribes et des pharisiens, il annonce déjà les accusateurs de Jésus. Car ceux qui ne raisonnent qu'en catégorie, qui refusent de regarder la singularité des personnes et des moments particuliers de l'histoire, ne font pas juste de la mauvaise morale, ils se condamnent à être aveugles quand le Messie se manifeste comme une personne singulière et surprenante à un moment particulier du temps. Là encore, je crois qu'il ne faut pas les regarder de trop haut en se disant « nous sommes évidemment au-delà de ces catégories-là ». nous avons vite fait aujourd'hui de nous positionner contre, de constituer, y compris notre identité chrétienne, contre d'autres groupes ou d'autres idéologies, au lieu d'écouter des personnes singulières. Bien sûr, notre foi implique de dénoncer des idéologies mortifères ou qui s'opposent de manière frontale à la loi de Dieu, et elles sont nombreuses aujourd'hui. Mais ne se poser que contre des mouvements de pensée ou des comportements n'est pas une attitude chrétienne, parce que notre foi ne constitue pas un mouvement de pensée parmi d'autres ou un style de vie parmi d'autres. Et surtout, elle ne cherche jamais à se bâtir, au fond, en référence au mal et à se laisser définir par ce qu'elle n'est pas. Notre foi porte une loi, c'est vrai, une certaine manière d'être fondamentale, mais elle est toujours écoute de personnes singulières, écoute de ce qui se passe dans le temps. Ce genre de groupe, comme celui que forment les scribes et les pharisiens, il finit vite par se disperser, parce que ce qui l'unit, au fond, c'est le péché. C'est l'opposition au péché, c'est cette fascination pour le mal. Alors ne soyons pas comme eux, car ceux qui préfèrent la stabilité à la loi divine, le statu quo à une authentique tradition, finiront toujours par se laver les mains devant quelqu'un qui les perturbe et laisseront toujours mettre à mort celui ou celle qui sort de leur cadre mental, même si c'est le Christ lui-même. Ils finiront toujours par se disperser en commençant par les plus anciens, parce qu'ils trouveront toujours que leur voisin n'est pas assez pur pour eux. Le dernier groupe, enfin, c'est le plus petit, le plus fragile, peut-être le plus imperceptible, celui qu'on n'aurait pas immédiatement qualifié de groupe en lisant cet évangile. Ce groupe, il est constitué de deux personnes, d'une vraie rencontre cette fois-ci. C'est la rencontre, évidemment, entre la femme et le Christ. Ce qui est au cœur de cette rencontre, ce n'est pas un bel enseignement, comme pour ce peuple qui se rassemblait autour du temple. C'est un silence et des gestes assez étranges, au fond. Le Christ est baissé, il trace des signes sur le sol. Ce qui rassemble ce petit groupe, ce ne sont pas des principes transgressés qu'il s'agirait de dénoncer pour pouvoir trouver une belle unité morale. C'est un dialogue et c'est une mission donnée. Jésus se tait. Jésus se tait quand on lui demande comment appliquer la loi dans une vie concrète. Et si vous prenez l'évangile, à chaque fois qu'on lui pose cette question, il se tait ou il renvoie son interlocuteur à lui-même. Ce n'est pas qu'il refuse la loi. Il l'a dit plusieurs fois, aucun petit trait de la loi ne disparaît. Mais il ne vient pas d'abord pour dire une loi nouvelle entendue comme de nouveaux préceptes. Il ne vient pas pour dire non plus comment l'appliquer de façon concrète dans chaque situation de la vie, pour donner une sorte de catalogue qui permettrait dans chaque situation de faire exactement ce que Jésus voudrait. Non, il vient donner sa grâce pour que cette loi soit inscrite dans le cœur de l'homme, soit appliquée par la liberté de l'homme. Voilà ce que peut signifier son silence et ce geste étrange de tracer des traits au sol. La loi est là, elle a été donnée, elle ne bouge pas. Et la mission de Jésus est de l'écrire dans le cœur de cet homme tiré de la poussière du sol. La mission de Jésus, ce n'est pas de former des lettres dans la pierre, comme autrefois le doigt de Dieu gravant le décalogue. Non, Jésus trace des traits dans le sol. On pourrait dire qu'il fait danser le doigt de Dieu avec la gratuité de la grâce au sein de cette poussière dont l'homme a été tiré. Ce silence et ce geste gratuit de Jésus disent qu'est la loi nouvelle, non pas des préceptes, mais la mise en avant d'une présence, de sa présence, de la présence du Christ au cœur de l'homme et de son esprit. Une présence d'amitié. Une présence d'amitié qui est gratuite comme toute présence d'amitié et qui annonce ce que Jésus dira au soir de la scène, « Je vous appelle mes amis. Je vous appelle mes amis. » Alors, frères et sœurs, vivons-nous vraiment de cette loi nouvelle? Est-ce que la présence du Christ est ce qui nous rassemble? Est-ce la certitude d'être habité par son esprit qui nous redit à la fois la loi « ne pêche plus » et la miséricorde « je ne te condamne pas » Est-ce que la joie d'être à côté de personnes non pas qui suivent le même enseignement ou qui respectent la même loi, mais qui ont été relevés par le Seigneur et habités par le même esprit, est-ce cela qui nous habite ? Sommes-nous rassemblés ce matin par l'amitié du Christ, par la gratuité de sa présence, par la mémoire de tous ces moments où singulièrement chacun d'entre nous, il a posé son regard sur nous, il a prononcé ces mots qui nous ont relevés. Alors oui, c'est la répétition générale. Il y a la foule qui ne fait que passer. On la retrouvera au rameau. Il y a les accusateurs, les obsédés de la transgression. Cela, on les retrouvera le vendredi saint. Et puis il y a la pécheresse, le silence, la gratuité du geste et la voix qui relève. Celle-là, on la retrouvera à l'onction de Béthanie et surtout comme premier témoin du matin de Pâques. C'est la répétition générale qui revient chaque année, et pas seulement dans nos liturgies, dans toutes nos vies quotidiennes, qui nous invite à nous positionner. Alors demandons dans cette Eucharistie au Seigneur de ne pas nous tromper de groupe et de nous rassembler effectivement autour de lui dans la fragile gratuité de l'amitié qu'il nous offre. Amen.